Bienvenue dans Perspective Croisée. Imaginez un instant le scénario suivant. Vous venez de passer, disons, 3 ans à construire méticuleusement votre réputation comme l'expert absolu sur le forum technique de votre entreprise.
Un travail de titan, soit dit en passant. Des centaines d'heures.
C'est clair. Donc, vous vous connectez un matin et là, vous découvrez qu'une intelligence artificielle a non seulement répondu dans la nuit à toutes les questions que vous traitez d'habitude, mais qu'elle est en plus en train de coacher les nouveaux membres.
Ah oui, et tout ça en imitant parfaitement votre ton, j'imagine.
Exactement. Et la question, c'est face à ça, êtes-vous soulagé d'avoir enfin récupéré vos week-ends ou vous sentez-vous purement et simplement remplacé ?
C'est vraiment la question vertigineuse qui nous frappe de plein fouet aujourd'hui. On ne parle plus du tout de science-fiction, là. C'est la réalité des plateformes communautaires d'entreprise qui se déploient en ce moment même.
Absolument. Et c'est ce qui nous amène à décortiquer Aurora AI aujourd'hui, le nouveau système d'exploitation communautaire de Khoros. Le document de conception qu'on analyse présente une architecture massive, structurée en 3 niveaux imbriqués.
Avec un objectif très clair, intégrer une IA spécialisée dans absolument chaque strate d'une communauté numérique. De la modération en arrière-plan jusqu'à la génération automatique de réponses techniques.
Voilà. Et la véritable question de notre échange est là. Est-ce que cette automatisation intégrale amplifie réellement l'engagement humain en supprimant les frictions, ou bien est-ce qu'elle mécanise et détruit finalement l'essence même de ce qui fait une communauté? Je pose ma carte sur la table d'entrée de jeu. Je suis convaincu que cette architecture ultra structurée est devenue vitale. Elle libère la communauté du fardeau des tâches répétitives et elle agit comme un bouclier pour protéger le moteur humain. Ça transforme la connaissance en atout commercial mesurable.
Eh bien, je prends la position inverse, sans surprise. Je suis convaincue que cette médiation algorithmique omniprésente, elle risque d'étouffer la dynamique organique. Cette entraide véritable, c'est pourtant le seul fondement de la valeur d'une communauté, quoi.
Laissez-moi vous expliquer comment je vois les choses, parce qu'il faut vraiment comprendre l'échelle à laquelle on opère. Si vous avez déjà géré une communauté, vous savez qu'à partir de, disons, 10 000 membres, on ne peut plus du tout se reposer uniquement sur la bonne volonté spontanée.
Oui, le volume devient ingérable, c'est vrai.
Complètement ingérable. Khoros gère plus de 40 000 communautés depuis 2001. Et les chiffres qu'ils avancent avec Aurora AI, ils sont massifs. On parle de générer plus de 500 millions de dollars d'économies annuelles sur les coûts d'assistance.
Rien que grâce au libre service, hein ?
Exactement. Tout en multipliant les revenus par 2 à 5. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est le comment. C'est pas juste un forum classique sur lequel on a collé un chatbot génératif pour faire joli, vous voyez ?
Non, c'est une architecture systémique.
Voilà. Le niveau 01, c'est l'expertise humaine, la base. Le niveau 02, c'est la couche d'intelligence qui va trier tout cet océan de requêtes. Et le niveau 03, c'est la couche d'action. L'IA absorbe le bruit de fond pour que l'humain puisse respirer.
Alors, vous décrivez cette architecture comme un bouclier. Mais honnêtement, le paradoxe saute aux yeux quand on regarde la mécanique interne. Analysons ce fameux niveau 01. Il est défini textuellement comme le moteur humain.
C'est le terme, oui.
Et comment il fonctionne, ce moteur humain ? Par la friction sociale, la gamification, les badges, les points de réputation. C'est le carburant psychologique qui pousse un utilisateur passif à lever la main pour aider un inconnu.
D'accord, mais en quoi l'IA casse ça ?
Parce que les niveaux 02 et 03 sont conçus pour intervenir, répondre et résoudre les problèmes à une vitesse surhumaine. Si une communauté se définit par l'effort que les membres s'accordent mutuellement, automatiser ça, ça transforme un espace vivant en une simple base de données conversationnelle.
Je suis pas du tout de cet avis. Plongeons justement dans le mécanisme exact de la fonctionnalité Answer Assist, l'aide à la réponse. Regardons comment ça se passe sur le terrain.
Très bien, regardons ça. La promesse, c'est qu'un utilisateur pose une question et l'IA génère immédiatement une réponse sourcée. C'est le rêve pour réduire les coûts, mais socialement, c'est un désastre.
Un désastre, le mot est fort.
Mais oui. Si une machine répond instantanément aux questions de base, comment un nouveau membre peut-il commencer à construire sa réputation ? C'est comme si on enlevait les petites roulettes du vélo pour un débutant, mais qu'on lui retirait aussi les pédales. Il n'a plus aucun moyen de gagner ses premiers badges. On atrophie l'engagement par excès d'efficacité.
Ah, attendez, vous allez un peu vite sur le fonctionnement d'Answer Assist, là. La documentation est très formelle sur ce point. L'IA ne fait pas la course avec les humains. Elle n'est pas programmée pour bondir sur la question à la milliseconde près.
Il y a un délai, c'est ça ?
Exactement. Le mécanisme intègre un délai délibéré. L'IA intervient spécifiquement lorsque les experts humains n'ont pas répondu. Il y a un espace laissé à l'organique. Parce qu'honnêtement, il y a pire que l'automatisation pour un nouveau membre.
Lequel ?
Le silence radio.
Le silence radio, tout à fait. Poser une question et ne voir aucune réponse pendant 3 jours, c'est ça le véritable tueur d'engagement. Et surtout, observez comment l'IA formule sa réponse. Elle ne prétend pas détenir le savoir absolu.
Elle cite ses sources.
Oui, elle cite ses sources et elle attribue des points de mérite aux contributeurs initiaux. C'est comme un bibliothécaire ultra efficace qui dit à un étudiant « Voici le manuel écrit par tel expert de notre communauté. Votre expertise est valorisée, même quand vous dormez. »
Le bibliothécaire, je veux bien. L'analogie fonctionne pour le routage de l'information. Mais regardons l'autre fonctionnalité d'Answer Assist, le nudge. Le coup de coude numérique.
Ah, le système de notification.
Oui. Si l'IA ne trouve pas la réponse, elle identifie les experts humains et leur envoie une notification ciblée pour exiger, enfin demander, qu'ils interviennent. Quel est l'effet psychologique à long terme de ça ?
Bah, d'être reconnu comme le seul capable de répondre.
Non. L'effet, c'est que je ne viens plus sur la plateforme pour flâner ou pour aider aux affaires d'une découverte. Je m'y connecte parce qu'un algorithme m'a assigné une tâche, comme un simple ticket de support informatique.
La magie de la rencontre fortuite, la sérendipité, tout ça s'évapore complètement.
Je vois. Vous parlez de l'expert comme d'un sous-traitant bénévole ?
C'est exactement ça. Le super-utilisateur devient le sous-traitant de l'algorithme. Sauf que là, on parle de communautés d'entreprises techniques complexes. On n'est pas sur un réseau social grand public. L'objectif des utilisateurs n'est pas la flânerie poétique, vous savez. S'ils sont là, c'est pour résoudre des problèmes critiques, des bugs de serveur, des choses comme ça.
Certes, mais l'aspect social compte quand même.
Bien sûr, mais imaginez, le système analyse votre historique et comprend que vous êtes, disons, l'une des 3 seules personnes au monde à maîtriser un composant réseau hyper spécifique. Et il vous invite formellement à débloquer un pair. Sur le plan de la validation sociale, c'était extrêmement puissant.
Vous ne trouvez pas ça un peu mécanique ?
Non, vous n'êtes pas un sous-traitant, vous êtes l'expert appelé en renfort par le système lui-même. Et cette capacité à acheminer la bonne requête vers la bonne personne nous amène justement au cœur de l'architecture, le niveau 3.
La couche d'action.
Exactement, la couche d'action. C'est la partie que je trouve la plus brillante technologiquement. L'orchestrateur gère les processus, les rôles, les événements, l'escalade des problèmes. Et la décision clé de Coros ici, c'est que ce niveau 0.3 fonctionne sans recourir au grand modèle linguistique, sans LLM.
Attendez, je vous arrête tout de suite, parce qu'il faut qu'on clarifie ça pour la technique. Vous dites que le niveau 0.2 utilise des modèles probabilistes, l'IA classique, pour comprendre le langage, mais que le niveau 0.3 qui exécute est déterministe et n'utilise pas de LLM.
C'est tout à fait ça.
Mais comment ces deux couches peuvent-elles dialoguer sans provoquer un chaos technique absolu ? Une IA probabiliste, par définition, elle devine le sens. Elle n'est jamais sûre à 100%. Comment un système déterministe peut-il agir aveuglément là-dessus ?
C'est une excellente question. Et franchement, c'est tout le génie de cette séparation. Le niveau 0.2 lit l'interaction. Par exemple, un client poste un message très frustré sur un bug logiciel. Le modèle probabiliste analyse le texte et génère des métadonnées.
Il met des tags en gros.
Voilà. Il tague le message comme sentiment négatif élevé, sujet, bug de connexion, avec un score de confiance. Et c'est là que le niveau 0.3, l'orchestrateur déterministe, prend le relais. Il ne lit pas le texte du tout. Il ne lit que les tags.
D'accord. Il applique des règles strictes.
Exactement. Des règles du type « si le sentiment est très négatif et que le sujet est un bug, alors déclenchez un webhook ». Ce webhook, c'est un signal qui va automatiquement ouvrir un ticket prioritaire. Pas d'hallucination d'IA, pas d'action farfelue. On a la prévisibilité totale associée à l'intelligence linguistique.
Techniquement, je comprends la séparation des pouvoirs. Utiliser l'analyse pour taguer et des règles dures pour exécuter, c'est propre. Ça génère des pistes d'audit très claires. Mais revenons à ce qui nourrit cette machine, le niveau 0.2.
La modération par l'IA.
Oui, la modération par l'IA. Le document nous indique que cette IA contrôle le contenu en temps réel pour la sécurité, d'accord, mais aussi, et c'est là que le bad blesse, pour le ton de la marque.
Ça vous inquiète ?
Bien sûr. Comment une IA, même super entraînée, peut-elle saisir l'ironie, le sarcasme constructif ou l'humour très spécifique d'une communauté d'ingénieurs réseau ? En donnant à une machine le pouvoir de signaler tout ce qui s'écarte du ton de la marque, on risque de standardiser et d'aseptiser complètement les échanges.
Vous avez peur qu'on perde la friction créatrice ?
Thème agissait comme un senseur aveugle qui supprime automatiquement tout, je partagerai votre inquiétude.
Mais la modération d'Aurora n'est pas une guillotine algorithmique.
Elle ne supprime pas directement.
Non. La mécanique est bien expliquée. L'IA identifie les zones grises et les signale au modérateur humain, avec le contexte. C'est l'humain qui garde le jugement final sur les nuances culturelles. Mettez-vous à la place d'un modérateur quelques instants.
J'essaye, oui.
Lors d'une migration massive vers Aurora, le volume quotidien est juste délirant. Sans ce filtrage automatisé, l'équipe est submergée par le bruit et la toxicité. Ce que fait l'IA, c'est préserver la sécurité psychologique. Et pour ça, elle repose sur le modèle linguistique communautaire, le CLM.
Oui, le modèle fermé.
Exact. Contrairement à beaucoup d'outils qui envoient vos données sur des serveurs publics, le CLM est entraîné exclusivement sur les données fermées de l'entreprise. C'est ultra sécurisé.
D'accord, la confidentialité des données est assurée. C'est un prérequis évident. Mais parlons de ce qu'on fait réellement de ces données. Si on suit l'évolution logique, la technologie ne va pas se limiter à trier des tickets.
Vous pensez à la roadmap future?
Tout en fait. Le document évoque, pour le quatrième trimestre 2026, un analyste de données IA pour comprendre les tendances. Mais le véritable point de bascule, ce sont les agents chargés du développement de l'effectif prévu pour le troisième trimestre 2026.
Ah, les agents prévus pour identifier et mobiliser les membres précieux.
Exactement. Et là, on bascule. Le document stipule que ces agents auront pour mission d'identifier, d'accompagner et de mobiliser les super-utilisateurs. Et de gérer l'accompagnement des nouveaux membres. On passe de l'IA qui gère la donnée à l'IA qui gère le comportement humain.
C'est une assistance à grande échelle, c'est tout?
Non, c'est ce que j'appelle la vallée de l'étrange du management communautaire. Entrons dans la psychologie du membre, deux secondes. Imaginez que vous recevez un message d'encouragement formidable ou qu'un ambassadeur vous prend sous son aile. Vous vous sentez valorisé, non?
Bah oui, naturellement.
Et puis vous réalisez que cette reconnaissance n'a rien de spontané. Elle a été froidement calculée et déclenchée par un agent algorithmique conçu pour maintenir vos métriques d'engagement dans le vert. La valeur de cette reconnaissance s'effondre instantanément.
C'est un peu cynique comme vision, non?
Pas du tout. Ne sommes-nous pas en train de construire un grand théâtre de l'engagement où la machine simule l'empathie sociale?
Je vois très bien où vous voulez en venir avec cette idée de théâtre. L'illusion de l'empathie, ça peut générer du cynisme si c'est mal exécuté, je vous l'accorde. Mais redescendons dans la réalité physique d'une équipe.
La fameuse excuse du manque de ressources.
C'est pas une excuse, c'est la réalité. Vous ne pouvez tout simplement pas avoir un humain qui repère en temps réel à 3h du matin qu'un utilisateur discret vient de publier 3 solutions techniques brillantes d'affilée. Vous ne pouvez pas avoir un humain qui prend par la main individuellement chaque millième nouveau membre.
Donc on délègue la relation humaine à la machine.
On délègue la détection. La plateforme parle de FRIR, des parcours de développement clairement définis. L'IA n'essaye pas de feindre l'amitié. Elle agit comme un radar ultra-sensible. Elle identifie le potentiel brut et crée un pont structurel vers les programmes d'ambassadeurs. C'est du mentorat procédural, en quelque sorte.
Mentorat procédural. Associer ces deux mots, ça illustre parfaitement notre désaccord.
Vraiment?
Mais oui, le mentorat exige, par définition, une intentionnalité humaine, une attention portée à l'autre. Transformer ça en procédure algorithmique, c'est risquer de vider la relation de sa substance.
Ça permet au contraire de s'assurer que les talents ne sont pas invisibilisés.
Je concède que l'intention de Coros, c'est de sauver les gestionnaires de l'épuisement. La migration fluide depuis leur ancien système classique, les interfaces, tout ça témoigne d'une vraie volonté d'aider. Mais sociologiquement parlant, optimiser chaque micro-interaction pour éliminer le hasard, c'est concevoir la communauté comme une usine de production.
Une usine? Carrément.
Oui, une usine de connaissances. Et l'hyper-optimisation, bah, c'est souvent l'ennemi mortel de l'intimité sociale.
Il est temps de rassembler nos idées, je pense, car nous touchons à la conclusion de cette analyse. De mon côté, en regardant la mécanique détaillée de ces 3 niveaux, je reste fermement convaincu que dans un monde où les interactions explosent, une communauté non assistée va juste suffoquer.
C'est un risque, oui, mais à quel prix on la sauve ?
Au prix d'une ingénierie redoutablement cohérente, en isolant l'action dans l'orchestrateur déterministe, en protégeant les données via le CLM et en paramétrant l'IA pour qu'elle intervienne comme filet de sécurité. L'architecture ne dénature pas la communauté, elle la met à l'échelle.
Elle permet au moteur humain de ne pas se noyer.
Voilà,
Elle réserve la bande passante cognitive des experts aux problèmes qui nécessitent une véritable empathie.
L'ingénierie est brillante, je ne le conteste vraiment pas. La promesse de réduire les coûts et de libérer les modérateurs du travail ingrat est technologiquement solide, surtout avec cette distinction entre probabiliste et déterministe.
Mais vous gardez des réserves.
Mon appréhension centrale demeure totalement intacte, oui. En déployant des agents pour modérer le ton, orchestrer les relations et coacher les utilisateurs à partir de 2026, on flirte dangereusement avec la mécanisation du lien social.
En aseptisant l'espace, selon vous?
Absolument. À force de vouloir gommer la moindre friction ou le moindre silence, on tue l'authenticité. Les frictions, les différences de ton, c'est précisément ce qui forge des connexions humaines durables.
Au final, le document semble nous donner raison à tous les deux sur une vérité immuable. La matière première d'une plateforme d'entreprise, son cœur, ce sera toujours l'expertise humaine, le fameux niveau 0-1.
Tout à fait. Si les humains cessent de générer de la connaissance par manque de motivation ou de reconnaissance organique, les couches d'IA n'auront plus rien à analyser et l'orchestrateur n'aura plus rien à faire. La machine a viscéralement besoin de l'humain pour exister.
C'est le vrai défi pour les architectes de ces plateformes et pour les entreprises qui les déploient. Il faudra trouver le réglage exact entre assister une communauté pour lui éviter l'effondrement et la suroptimiser au point d'en faire une coquille vide où l'algorithme finit par parler à l'algorithme.
C'est une ligne de crête extrêmement fine à naviguer.
Et c'est un équilibre précaire que nous allons tous devoir trouver. Si vous gérez ou participez à une communauté numérique, la question s'adresse directement à vous. Jusqu'à quel point êtes-vous prêt à laisser une intelligence artificielle fluidifier vos interactions avant d'avoir l'impression de perdre l'âme sauvage de vos échanges? C'est une réflexion que nous vous laissons méditer.